sur toi. À chacun qui s'engage, le même pari est lancé. Peut-il compter sur moi? Oser se lever, afficher sa foi, montrer au monde ce que veut dire je crois. Si jamais je m'écroule sans pouvoir me redresser, puis-je compter sur toi? Je te promets que jamais je ne te laisserai tomber. Tu peux compter sur moi. Oser se lever, afficher sa foi, montrer au monde ce que veut dire je crois. Qui saura jusqu'au bout relever le défi sans recours à celui qui nous porte à la vie. Afficher sa foi, montrer au monde ce que veut dire je crois. Oser se lever, afficher sa foi, montrer au monde ce que veut dire.
Asseoir. Quand même l'impression que vous savez chanter ici au Québec. C'est super. Je le sais aussi parce que j'ai regardé un DVD de Bobby McFerrin pendant lequel c'était à Montréal, je crois. Et voilà, tout le public chantait à quatre voix derrière lui. Je me suis dit, tiens, il faudrait que j'y aille un jour. Voilà que je suis arrivé. Donc aujourd'hui, vous avez bien compris, il ne s'agit pas d'un concert dans votre église, mais plutôt d'un apport de ma part en tant qu'artiste chrétien vivant aujourd'hui. Et voilà que, pour me présenter un petit peu, je dirais que je suis né dans une famille chrétienne. Je suis né à Calcutta, en Inde, mais ça, c'est comme un fait divers. Et ensuite, j'ai passé la plupart de ma vie en Angleterre. À l'âge de 6 ans, il fallait faire du piano. À 8 ans, la guitare, et à ce moment-là, la guitare a pris un peu le dessus. Vous allez le remarquer que c'est là mon instrument de prédilection. Un peu plus tard, la flûte traversière, et ensuite j'ai fait tous mes diplômes et tout cela pour arriver à l'âge de 18 ans. Et là, la question s'est posée, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue dans la musique pour mes études supérieures, ou est-ce que j'opte pour la langue française? Et voilà que, effectivement, j'ai décidé de prendre la langue française et l'allemand pour mes matières d'université et garder la musique pour un passe-temps. Mais alors, ce passe-temps, n'a pas cessé de grandir en importance. Quand j'ai quitté l'université, c'était pour donc enseigner les langues et la musique. Et petit à petit, cette musique prenait des proportions difficiles à gérer avec l'enseignement. Et donc, il y a 20 ans de tout cela, j'ai quitté l'enseignement pour me consacrer à la musique, et pas n'importe laquelle, mais une musique engagée, une musique à texte, une musique pour servir l'Église. D'abord en Angleterre, et ensuite, 2 ans plus tard, j'ai décidé de partir en France pour soutenir la plus petite équipe qui était là par rapport à l'Angleterre, où les musiciens chrétiens sont assez nombreux. Et en France, donc à l'époque, il y a 18 ans de cela, il n'y avait pas tant que ça de musiciens professionnels, des chanteurs professionnels. Et voilà que j'ai voulu donc participer à quelque chose de plus naissant en France. Et voilà, maintenant, nous sommes sur le point de déménager encore depuis la province pour aller vivre à la capitale, où en ce moment, en France, il y a énormément d'initiatives qui commence à se dire, mais l'art a-t-il une place dans l'Église ? Les artistes, est-ce qu'on les a tous contactés, tous retrouvés ? Est-ce qu'on les valorise ? Est-ce qu'on les encourage ? Ou est-ce que les vrais artistes, les bons, les grands, restent obligatoirement en dehors de nos églises ? Ce qui est le cas, je dirais, pour la plupart de mes amis musiciens qui ne trouvent pas leur place dans l'Église. Que ce soit leur faute, je ne sais pas. En tout cas, la situation peut être revu et corrigé. Et donc, mon souci, en étant à Paris, c'est de continuer mes concerts, mes animations de culte, mais aussi d'encourager les autres chrétiens qui sont dans l'art et d'une manière professionnelle pour le faire. C'est marrant, quand je regarde en arrière, cette conversion que j'ai eue à 12 ans, cette prise de conscience que, finalement, Dieu pouvait, même à cet âge-là, me laver de mon péché, pouvait me donner en quelque sorte un nouveau cahier, comme j'étais écolier à l'époque, un nouveau cahier sans rature, avec des pages vierges, blanches, sur lesquelles j'allais faire des erreurs par la suite, et j'en ai fait. Mais c'est cette image-là, quand j'avais 12 ans, qui m'a convaincu que, voilà, je veux mettre mes mains, ma vie dans les mains de Dieu, pour qu'il me donne cette nouvelle chance, même à l'âge de 12 ans. Et demander à un journaliste, si vous voulez, qu'est-ce qui fait le bonheur de son travail, il va peut-être répondre comme un ami journaliste m'a dit un jour, c'est de pouvoir commencer chaque jour avec une nouvelle page blanche. C'est un peu ça, notre expérience chrétienne. Je regarde aussi, à 12 ans, mon intégration tout de suite dans un petit groupe de deux guitares et une contrebasse, et on chantait dans les maisons de retraite, dans les écoles, dans les églises, etc. Et je sais que là, le souci numéro un du chef du groupe, qui n'était pas moi, j'étais en culotte courte, n'est-ce pas ? Mais le chef du groupe, c'était, est-ce que la personne la pire placée dans la salle a entendu chaque parole ? Une formation formidable au début de mon ministère naissant, c'est de savoir que la communication est la chose la plus importante pour le musicien de nos jours. Voilà, je suis un petit peu esquissé devant vous maintenant. Je voudrais vous dire que mon but dans la musique, ce n'est pas justement d'attirer l'attention sur moi, mais plutôt l'attirer sur celui qui m'anime, celui qui me donne quelque chose à dire, sinon je ne dirais rien. Il s'agit donc, n'est-ce pas, de Jésus-Christ. Cette chanson que je vais vous chanter s'appelle « Ecce Homo ». Il parle de ce moment où Pilate a voulu se débarrasser de Jésus en disant « Voici l'homme, ecce homo », c'est du latin. « Voici l'homme, faites avec lui ce que vous voulez. » Pilate était un lâche qui a voulu se débarrasser de Jésus. Si moi je chante ces mots « Voici l'homme », c'est parce que je crois intimement que en regardant et en comprenant le visage couronné d'épines de Jésus, qu'en comprenant son identité, et tout ce qu'il est venu faire sur terre, à ce moment-là, on trouve non seulement le bonheur personnel, ou la joie plutôt personnelle, mais aussi une compréhension de son existence et une garantie de notre existence dans l'au-delà. Donc cette chanson, donc, Ecce Homo, on va voir ce qu'on peut faire avec ce piano. J'ai pratiquement la garantie qu'il va marcher, mais s'il ne marchait pas, à ce moment-là, je changerai d'instrument ou ça sera a cappella. N'ayez pas peur, on va continuer. The show must go on.
Qui a su parler dans le silence pour donner naissance à tout ce qu'on voit, qu'on ne voit pas, qui demeure au cours des siècles l'homme incontournable dont le discours engendre l'amour ou la haine, mais jamais l'indifférence. La parole faite chair, dont la force soutient tout l'univers. Ecce. Ecce. Chargés de nos peines, en les faisant siennes, jusqu'à son calvaire, jusqu'en enfer. Par sa mort, brisant tout pouvoir, toute autorité, après les avoir tous livrés en spectacle, lors de sa victoire à la croix, élevé dans les cieux, attendant le jour de son retour glorieux. Voici, voici l'homme, voici. Qu'a-t-il fait de mal? De quoi l'accusez-vous? Jugez-le vous-même. Je ne suis pas responsable de la mort de cet homme. Cela vous regarde. Je m'en lave les mains. Qui es-tu? Es-tu dans quoi? Tu n'entends pas tout ce qu'ils disent contre toi. Pourtant, j'ai le pouvoir de te libérer, celui de te crucifier. Ecce, ecce homo. L'auteur.
Et s'il est vrai que notre cas de vie, de foi, est assez particulier à notre ministère, la même question quant aux sources de stabilité, de référence, doit se poser pour chacun d'entre nous. Sur quoi est posé notre regard? Croire sans voir, est-ce vraiment possible? Souhaitable, tenable, et à quel point? Paul a dû se poser la même question. Dans 2 Corinthiens au chapitre 4, et si vous avez une Bible, vous pouvez trouver la référence et trouver ces versets avec moi. Je ne vais pas lire tout le chapitre, mais sachez que pendant ce chapitre 4 de la deuxième épître aux Corinthiens, Paul expose ses difficultés, ses découragements, ses déceptions, ses persécutions, les dangers qui le jettent. Et voilà qu'il conclut au verset 15 de ce chapitre. Donc 2 Corinthiens 4 au verset 15. Ainsi, tout ce que nous endurons, c'est à cause de vous, pour que la grâce abonde en atteignant des hommes toujours plus nombreux, et qu'ainsi augmente le nombre de prières de reconnaissance à la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détériore peu à peu, intérieurement, nous sommes renouvelés de jour en jour. En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de gloire éternelle qu'elle nous prépare. Et voilà le verset sur lequel on va s'arrêter quelques instants maintenant, ce matin. Nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles. Car les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les invisibles demeurent éternellement. Et dans une autre traduction, on peut lire « Aussi, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont momentanées et les visibles sont éternelles. » Je vais prier quelques instants, si vous permettez. Seigneur, nous voulons comprendre ce verset pour nous. Nous voulons vraiment que tout ce qui est dit soit applicable à notre cas. Nous ne te voyons pas, mais nous croyons que tu es là. Et quand nous regardons notre vie, nous ne savons pas vraiment garder cette vision de l'invisible. Et nous te demandons, Seigneur, de nous venir en aide par ton esprit ce matin. Amen. Alors vous imaginez un petit peu maintenant mon travail ou notre travail, puisque mon épouse qui est là derrière, c'est la plus belle femme dans la salle. Sans offenser les messieurs, mais on va se battre après si vous voulez. Voilà, c'est notre travail, c'est elle qui s'occupe de tout ce qui n'est pas note de musique. Et il y a un paquet. Voilà, vous imaginez ce travail pour ce qui est au moins du visible. Les albums peut-être, les concerts, l'évangélisation, les prédications, les stages, les conférences, les animations de culte, des lettres de nouvelles et j'en passe. C'est un travail, je dirais, de semence plutôt que de récolte. S'il y a des résultats visibles, ils sont quelquefois aussi trompeurs. Car c'est dans la durée que les vrais résultats doivent se confirmer de toute façon. Les personnes qui s'engagent à long terme dans une église, dans le service, suite à un concert, suite à un dialogue. Ce qui n'est pas visible, ce sont les petits pas vers la foi. La longue réflexion entamée, le changement de vie à retardement, l'encouragement que reçoivent les auditeurs, leur formation progressive, le fruit qui se manifeste à long terme. Alors, mettez-vous à ma place. Comment juger de l'utilité de ce que je fais, de l'efficacité de mon œuvre, de l'efficacité de la vôtre? Si on doit se baser uniquement sur ce qui est tangible, des chiffres, des résultats, autant plier bagages, tout de suite et repartir en Angleterre, redevenir prof. Mais malgré la tentation fréquente de baisser les bras, évoquée déjà par Paul, plus tôt dans ce même chapitre que nous n'avons pas lu, au regard de la folie apparente de notre démarche spirituelle, nous nous efforçons de ramener, tant bien que mal, notre attention sur l'invisible. Mais je dois confesser que ce n'est pas toujours facile. Avez-vous cette même sensation, ces mêmes soucis? Regardez-vous plutôt à l'invisible ou au visible? Dans votre vie professionnelle, par exemple, vous focalisez-vous uniquement sur ce que... dans votre vie personnelle, pas professionnelle, votre vie personnelle, vous focalisez-vous surtout sur ce que Dieu pense de vous ou comparez-vous à d'autres pour ce qui est du témoignage? Surtout ceux qui sont écrits dans les livres de témoignages dits véridiques. Quelquefois, ça fait peur. Qui suis-je à côté de tout ça? Éprouvez-vous parfois le désir de vous prouver, de vous justifier? Moi, en venant ici, est-ce qu'il a fallu que je vous montre que je suis doctrinalement saint? Si, jusqu'à un certain point. Auriez-vous parfois un sentiment d'infériorité? J'aime bien... Et vous connaissez aussi sans doute l'échange entre Jésus et Pierre à la fin de l'évangile de Jean. Simon, m'aimes-tu plus que ne font ceux-ci? Et à la fin du dialogue, Jésus lui dit, suis-moi. Pierre se retourne à ce moment-là et demande quelque chose par rapport à un autre disciple qui traîne. Jésus le reprend. Que t'importe? Toi, suis-moi. Ne regarde pas le sort des autres. Croyez-vous donc réussir, progresser dans votre vie spirituelle? Et pourquoi le dites-vous? Qu'est-ce que la maturité chrétienne, de toute façon? Moi, j'ai l'impression, chez Paul, qu'au moins, en partie, il s'agit non de se sentir arrivé, mais plutôt d'être capable de laisser son passé derrière soi et aller de l'avant. C'est peut-être ça, la maturité chrétienne. Quant à la santé de votre communauté, qu'en est-il, à votre avis? Ne répondez pas. Pourquoi le pensez-vous? Chaque fois qu'on essaye d'y répondre, on a recours à des faits, des chiffres, des indices circonstanciels. La croissance numérique, le montant de l'offrande régulière, par exemple. D'ailleurs, comment faire autrement? Il semble difficile de faire confiance à Dieu seul, lui qui voit l'invisible avec des yeux autres que nôtres. Par ailleurs, récemment, j'ai relu la démarche catastrophique de David qui a tenté, n'est-ce pas, de dénombrer le peuple pour satisfaire son orgueil peut-être et qui a dû voir ce grand nombre se réduire par intervention divine. Rappelons aussi la phrase qui est prononcée au début de l'histoire de David, le comité de sélection. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux. Voilà la grande différence entre nous et lui. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde dominé par le visuel. La vue étant peut-être l'un des cinq sens les plus exploités. La publicité fait souvent miroiter devant nous des produits souvent peu sophistiqués par rapport à l'image qu'on leur attribue. Qu'y a-t-il de sexy dans un yaourt? Dans le savon? Dans le café? Dans le chocolat? Nous sommes souvent bernés par l'effet tape l'œil. Sur notre plan également, l'industrie et le commerce réclament des résultats tangibles, immédiats. On exige l'efficacité, la rentabilité, le rendement, les bénéfices. Bien sûr, à certains égards, nous avons sans doute quelque chose à apprendre de ces désirs de mieux viser, mieux gérer, mieux aboutir, mais nous laissons-nous parfois leurrer par les valeurs matérialistes. Notre vision se fait-elle kidnapper? Notre texte nous met en garde. Nous devons regarder non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont momentanées et les visibles sont éternelles. Mais remarquez que le texte reconnaît qu'il est naturel de regarder. Nous sommes des êtres curieux, certains plus que d'autres peut-être. Mais le croyant est averti par Paul contre les pratiques du monde. Il en est plusieurs, dit-il, qui marchent en ennemi de la croix du Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Leur Dieu, c'est leur ventre. Ils mettent la gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Il s'agit d'un avertissement de ne pas baser son regard sur le visible. Les Écritures, vous savez, contiennent tant d'exemples de regards mal placés. Moïse s'est vu trop insignifiant. Abraham et Sarah ont ri en se considérant trop vieux pour enfanter. Samuel a mal jugé les candidats pour le trône se basant sur l'apparence physique. Gédéon a eu peur de ses adversaires, vu le petit effectif de son armée. Barak a pris peur devant l'ennemi à la vue des 900 chars de fer. Pour ne pas parler des disciples qui baissaient les bras devant la multitude affamée, qui repoussaient les enfants inintéressants pour Jésus, qui déconseillaient Jésus d'aller jusqu'à Jérusalem, qui un jour sont devenus admirateurs de l'architecture. En sortant du temple, vous vous souvenez, l'un des disciples a dit à Jésus, « Maître, regarde, quelle pierre, quelle construction ? Jésus lui répondit, « Vois-tu ces grandes constructions ? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Clac. Jésus dira même plus tard, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. » Vous savez, l'invisible survivra au visible. Notons aussi que c'est par la parole que le visible a été créé. Dieu dit, et cela fut. Et que l'univers est tenu en place par cette même parole puissante. Je l'ai chanté tout à l'heure. En dehors de l'univers créé, auprès du Dieu éternel, tout ce qui perdure est invisible. La réalité invisible est éternelle. Pour revenir aux disciples un instant, Thomas associait les verbes croire et voir. Ça rime. Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. On demande à cerner l'invisible par le moyen du visible. Quelquefois, Dieu nous l'accorde, mais pas toujours. Le défi de la foi a toujours été d'avancer, malgré les apparences. Les situations dans l'Ancien Testament où le peuple de Dieu a dû avancer par la foi sont nombreuses. Un exemple est la traversée de la mer Rouge. Les Israélites fuyaient l'Égypte, n'est-ce pas ? Il est arrivé au moment où ils étaient coincés, les Égyptiens derrière, la mer devant. Les Israélites, dit-on, levèrent les yeux et voici que les Égyptiens s'étaient mis en marche derrière eux. Et les Israélites furent remplis de crainte et crièrent à l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi cries-tu vers moi ? Parle aux Israélites et qu'ils se mettent en marche. » Où ça ? Mais vers la mer, voyons. Oui. Dieu voyait quand même de l'autre côté, mais eux ne voyaient pas d'issue. C'est souvent, dans mon expérience, le cas. Nous sommes parfois si obnubilés par l'immédiat que nous ne voyons pas au-delà. Nous nous arrêtons au visible. C'est naturel. Pourtant, selon notre texte de ce matin, nous devons justement regarder plus loin aux réalités invisibles. Mais quelle est l'utilité de regarder quelque chose d'invisible ? C'est littéralement un non-sens. C'est ça, la foi. Croire fermement en une réalité qu'on ne voit pas pour l'instant. La foi, selon Hébreux, est l'assurance des choses qu'on ne voit pas, la démonstration de celles que l'on ne voit pas. C'est l'expérience quotidienne du chrétien. Pour nous, disait Paul, notre cité est dans les cieux. De là, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ qui transformera notre corps humilié en le rendant semblable à son corps glorieux par le pouvoir efficace qu'il a de s'assujettir toutes choses. À cause de la résurrection de Jésus et ainsi à l'avenir de la nôtre, il existe un but à notre lutte terrestre. Nous avançons en vue d'un grand avenir. Nous bâtissons l'invisible. Paul d'ajouter, « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. » Facile ? Non, loin de là. Peut-être que les Corinthiens avaient oublié cette réalité. Paul a dû le leur rappeler. Peut-être l'aviez-vous aussi perdu de vue? Le texte nous propose que les choses visibles sont momentanées, ne durent qu'un temps. Elles arrivent rapidement et disparaissent aussi vite. Il n'existe pas de raccourci dans la vie chrétienne, pas de progrès instantané. Des étapes, oui, mais on ne doit jamais se croire arrivé, que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Paul insiste sur le fait que les choses invisibles sont éternelles. Or, Jésus, en Matthieu, nous met en garde contre un mauvais amassement de trésors visibles. Nous devons amasser, disait-il, des trésors invisibles dans le ciel, où il n'y a ni rouille, ni mythe qui ronge, ni cambrioleur pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Voilà le danger. Nous sommes influencés, transformés par ce que nous regardons constamment. Les animaux domestiques, quelquefois, déteignent sur leur propriétaire. L'être aimé a une influence sur le look de son aimé. Si nous regardons vers les réalités divines, nous sommes ainsi transformés aussi. Selon 2 Corinthiens 3 au verset 18, l'image du chat me vient à l'esprit. Quand on, dans le jardin, la nuit, si on veut chercher un chat, comme j'ai fait bêtement une fois, avec une lampe électrique, tout ce que j'ai vu, c'est deux petits cercles lumineux. Le chat me contemplait et reflétait ce qu'il voyait. Paul dit, en contemplant et en reflétant la gloire du Seigneur dans sa parole, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Ça se fait petit à petit, imperceptiblement, mais ça se passe quand même. Mais j'avoue que c'est un vrai problème. Le visible ou l'invisible, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Le monde présent nous attire. Le péché est toujours plus facile que la sanctification. Ce n'est pas facile de toujours dire qu'on reste pur en vue de quelque chose de mieux. Mais voilà notre espérance ce matin. Nous ne regardons pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles, parce que les choses visibles ne durent qu'un temps, mais les choses invisibles durent pour toute l'éternité.